Bonjour et bienvenue, comme chaque fin de semaine, c'est l'entretien du cardinal. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Un premier sujet, parce que la laïcité a beaucoup fait parler d'elle cette semaine, avec la passe d'armes entre messieurs Jean-Louis Bianco et le Premier ministre Manuel Valls. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on est d'accord sur la même définition de la laïcité?
Non, ben de toute évidence, le choc public que le Premier ministre a déclenché reflète évidemment deux conceptions et deux traditions de la laïcité qui entrent en conflit. La première tradition, que j'appellerais une tradition idéologique, c'est-à-dire dont le but est d'éliminer les religions du débat public, et de les restreindre au maximum en pourchassant tous les signes ou toutes les appartenances. Et puis une conception plus institutionnelle, on pourrait dire, qui a été mise en œuvre par la loi de séparation de 1905 et dont l'objectif est d'assurer l'indépendance de l'État par rapport aux religions et de garantir le droit aux croyants de pratiquer leur religion, quelle que soit cette religion. Alors on voit bien qu'il y a évidemment des positions plus ou moins intermédiaires et plus ou moins dures dans ces deux conceptions, mais de toute évidence, l'attaque portée contre l'Observatoire de la laïcité vise à stigmatiser ce qu'on pourrait appeler une vision trop institutionnelle de la laïcité qui se borne à garantir la liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion pourvu qu'elle n'empiète pas sur l'ordre public et qu'elle n'empiète pas sur l'autonomie de l'État. C'est la ligne qui a prévalu au moment de la loi de 1905, puisque évidemment partant d'une position plus idéologique, le débat parlementaire et les choix qui ont été faits, en particulier sous l'impulsion d'Aristide Briand, ont abouti à une loi qui était davantage une loi qui mettait en place les moyens d'une liberté mutuelle. Et la jurisprudence d'un siècle, à partir de la séparation de 1905, a toujours été dans le même sens, c'est-à-dire comme l'État libre et laïque garantissant la liberté des religions.
Alors du coup, ce débat, est-ce qu'il oppose d'un côté des intégrismes du laïcisme et de l'autre les partisans d'une laïcité positive? Est-ce que c'est ça les deux pôles en tension?
On peut imaginer ça. On peut imaginer aussi que les propos du Premier ministre ont été mal contrôlés et ont dépassé ce qu'il souhaitait exprimé, mais encore qu'il l'a fait avec beaucoup de clarté et beaucoup de conviction. Donc c'est une attaque directe contre une vision paisible et libre de la laïcité au profit d'une laïcité de combat.
Est-ce que vous vous êtes senti visé ?
Oh, pas du tout, c'est un débat interne entre les laïcs. Il suffit qu'ils se mettent d'accord entre eux.
Tout simplement ?
Tout simplement, oui.
Mais ça n'a pas l'air si simple.
Eh bien, ça, c'est leur problème.
Est-ce que l'Église a une conception de la laïcité qui permettrait de mettre tout le monde d'accord? Parce qu'on voit bien que c'est la question de l'islam qui se pose aussi derrière.
Ah, ben oui, mais ça, c'est précisément un accroc dans la conception de la laïcité que d'instrumentaliser la vision d'une république laïque comme moyen de combat contre une religion qu'on n'ose pas nommer. C'est pas comme ça que fonctionne la laïcité. S'il doit y avoir des mesures à prendre à l'égard d'une religion, c'est en fonction de l'ordre public et pas en fonction d'idées cachées.
Monseigneur, un autre point dans l'actualité, c'est la nouvelle loi sur la fin de vie, l'absence de plan pour développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, on a abordé ce sujet-là. Est-ce qu'on n'est pas quelque peu face à une forme, je ne sais pas moi, d'enfumage ou d'enlisement de cette question?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est devant une question qui est une question terriblement complexe. Je veux dire en raison des situations qui sont concernées. Parce que ce sont, dans chaque cas particulier, ce sont des situations dramatiques où les gens sont très profondément impliqués affectivement et que c'est une illusion de croire que la loi peut, par un tour de magie, faire échapper à la tension affective et à l'aspect dramatique de la situation. Donc la loi Leonetti avait essayé de mettre en place un dispositif qui était un dispositif de prudence. Elle a été reprise et après de longs débats parlementaires, visiblement, La commission mixte du Sénat et de l'Assemblée nationale a mis au point des modes d'expression qui garantissent mieux la capacité de choix des patients, la liberté médicale et préserve de manœuvres euthanasiques. Ce sera l'application qui montrera si ce choix a été judicieux et s'il est efficace, mais compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouvent les gens, je pense qu'il faut viser dans un texte comme celui-là à des mesures d'apaisement et de concorde entre les parties, c'est-à-dire entre le patient, sa famille et les médecins, et non pas des instruments juridiques pour contraindre les uns ou les autres. Donc c'est dans ce passage très étroit que la loi se faufile. Mais évidemment, ça laisse tout à fait entier le développement et la mise en œuvre massive des soins palliatifs, qui sont vraiment la seule solution pour assumer l'angoisse des malades. Et les déclarations d'intention qui remontent au président Chirac, donc qui ne sont pas d'hier, de la volonté de mettre en place des services de soins palliatifs, s'est heurté à des grosses difficultés, d'abord financières évidemment, parce qu'il faut des moyens pour mettre en place des services de soins palliatifs, et puis des difficultés culturelles, parce que ça allait à l'encontre de beaucoup de préjugés du milieu médical et soignant. Et donc, c'est un problème culturel sur lequel il faut constamment revenir, et c'est un problème économique sur lequel il faut s'attarder, c'est-à-dire, est-ce que l'on est prêt à mettre les moyens pour permettre aux gens de vivre une fin de vie paisible, ou bien est-ce qu'on choisit la fin de vie paisible en les supprimant ?
Vous n'avez pas l'impression qu'on balade un peu l'opinion sur ce sujet ?
Je n'ai pas du tout l'impression que l'opinion est passionnée par ce sujet. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de gens pour qui la question est importante et sur laquelle ils travaillent, mais on ne peut pas dire que c'est la préoccupation première des Français. Et si on faisait un référendum, il y a gros à parier que la majorité des Français voterait pour l'euthanasie parce qu'ils imaginent que c'est la solution la plus humaine, ce qui est une erreur. Donc je pense que c'est la responsabilité de l'État et des législateurs de ne pas céder à cette espèce de mythe de la mort douce et de mettre en œuvre des moyens pour rendre moins pénible la fin de vie.
Monseigneur, un dernier sujet, la retraite des prêtres de Paris à Tressaint, l'esprit, les modalités, ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre.
Ah ben c'est très simple, tous les ans, je demande aux prêtres qui ont 3 ans achevés dans un poste, de se retrouver pour un temps de retraite. Ça a l'avantage de faire un tri aléatoire entre les générations, le type de ministère, etc. Et de rassembler entre 40 et 50 prêtres pour un temps de prière, de réflexion sur leur ministère, un temps de partage fraternel. Et ça me donne aussi l'occasion de les rencontrer plus tranquillement que dans la vie ordinaire. C'est donc un temps très fort pour le presbytérium parisien.
Merci beaucoup, Monseigneur. À la semaine prochaine.
Merci. Bonne journée.